du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, nous vous emmenons en Bolivie aujourd'hui au bord du lac Titicaca, un lac en danger puisqu'en mars et en avril dernier, un tiers du petit lac, c'est-à-dire la partie sud, s'est couverte d'algues vertes et de poissons morts. Pour la population locale, le choc a été brutal. Le Titicaca est le plus grand lac d'altitude du monde, bordé par des sommets de plus de 6000 mètres. C'est donc le symbole de la pureté andine, le joyau des Andes. Heureusement, les autorités et les locaux se mobilisent. C'est un reportage de Frédéric Faux à découvrir tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
C'est pas du vent sur RFI.
Jeudi dernier, c'était la date limite pour que chaque pays envoie à la Convention des Nations Unies sur le climat sa contribution nationale pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Un exercice difficile puisqu'il faut passer en revue chaque secteur économique clé du pays et anticiper quel sera son développement durant les 20 prochaines années. C'est une brique importante de ce qui sera l'accord de Paris car avec ces contributions, les pays s'engagent à se développer en polluant le moins possible. Des engagements qui devront d'ailleurs se décliner concrètement pour ne pas rester uniquement des papiers sur un coin de table. Bonjour Nicolas Drunet.
Bonjour.
Vous êtes le responsable du pôle changement climatique et développement rural pour Expertise France, l'agence d'expertise technique internationale de la France. Alors vous avez accompagné 27 pays, essentiellement en Afrique, mais aussi dans l'océan Indien et dans le Pacifique. Comment s'est passé cet accompagnement ?
Effectivement, on a reçu une commande un peu du ministère des Affaires étrangères, nous demandant effectivement d'accompagner un certain nombre de pays, essentiellement des pays moins avancés et les États insulaires, à effectivement fournir une contribution pour décembre 2015, étant entendu que cette contribution allait servir à la préparation de l'accord, comme vous l'avez dit. Et donc du coup, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est donc de travailler dans un temps très limité, hein, puisque ça, on a vraiment commencé début mars. Et donc on s'est entouré en fait d'experts techniques, que qu'ils soient sectoriels ou d'experts transversaux, afin justement de pouvoir apporter une expertise, qu'elle soit locale et internationale, à différents pays. Alors ce qui s'est passé, c'est que ces différents pays ont émis une demande d'assistance technique auprès d'Expertise France et de l'Agence française de développement, qui est, comme vous le savez, présente dans tous les pays. Ces requêtes nous ont été soumises à Expertise France et nous avons ensuite travaillé avec les pays à élaborer un cahier des charges spécifique qui se lie vraiment au développement du pays, c'est-à-dire que le cahier des charges exprime un peu toute l'assistance technique qui doit être déroulée sur les 6 mois, c'est-à-dire jusqu'au 1er octobre, hein, puisqu'on sait que le 1er octobre était la date butoir pour soumettre ses contributions. Et donc on s'est efforcé de construire un cahier des charges qui soit spécifique au pays, de recruter une assistance technique qui soit spécifique aussi au pays, avec de l'expertise locale et internationale, et qui couvre un peu tout le cycle de l'élaboration d'une contribution, sachant qu'une contribution, elle dépend complètement de ce que veut faire le pays, c'est-à-dire que le pays peut décider de faire de l'adaptation ou de l'atténuation, ou des deux. Cette contribution, elle est complètement libre pour les pays les moins avancés et les États insulaires. Ils n'ont pas d'objectifs globaux de réduction d'émissions, mais par contre, comme vous l'avez dit, c'est une contribution qui doit préparer le pays à effectivement continuer son développement, parce qu'on ne va pas refuser aux pays les moins avancés qui ont absolument pas contribué aux émissions et donc à la pollution qu'on a atmosphérique aujourd'hui, mais du coup de pouvoir continuer à se développer en polluant moins, comme vous l'avez dit.
Alors ce qui est un peu inquiétant dans ce que vous dites, c'est la notion d'urgence, c'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué de faire un schéma comme celui-là. En gros, les pays sont manifestés, vous disiez mars, avril, ça vous a laissé 6 mois, c'est rien pour faire un document vraiment structurant pour la politique économique d'un pays pour les 20 prochaines années.
Alors c'est vrai que c'était un vrai challenge, mais je pense que les pays ne partaient pas de rien. Je pense que tous les pays ont effectivement des cadres sectoriels de développement, c'est-à-dire un peu quel va être le développement du secteur de l'énergie dans les 10 prochaines années, quel va être le développement de l'agriculture. Donc l'idée, c'était de travailler déjà sur ces secteurs de base, et donc du coup de pouvoir effectivement faire des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre sur ces secteurs-là. Le but, je pense, pour les pays, c'est d'être le plus transparent possible. Et je pense que cette contribution, elles ont vraiment un grand intérêt. C'est qu'elles ont permis à tous les secteurs de se retrouver autour de la table, même si c'était dans un temps, effectivement, un peu restreint. Je pense que c'est une bonne base pour justement réorienter le développement de ces pays-là. Je pense qu'ils en ont tous conscience. Je pense que au-delà du point de vue écologique, il y a un point de vue économique. Et je pense que pour les pays pétroliers, c'est exactement pareil. Autant être le plus efficace d'un point de vue énergétique plutôt que de consommer sans aucune modération.
Alors, pour comprendre comment cela se traduit pour les pays, nous sommes en ligne justement avec Tanguy Gaouma. Bonjour.
Bonjour, Madame Braz.
Vous êtes le conseiller d'Ali Bongo et le secrétaire permanent du Conseil national climat du Gabon. Alors en quoi cet exercice a été, comme le disait Nicolas Drunet à l'instant, structurant pour la vision politique du développement du Gabon ?
Les contributions dans le cadre des changements climatiques ne sont pas un enjeu parmi un autre. C'est véritablement un enjeu central de la négociation et qui nous montre la nécessité absolue d'évoluer dans notre modèle économique, d'évoluer dans notre modèle d'utilisation des ressources naturelles. Et aujourd'hui, c'est ce que nous avons manifesté dans notre INDC, c'est que demain, tout comme nous l'avons déjà prouvé aujourd'hui, nos ressources naturelles, dans le cadre de la forêt, qui sont notre principale source d'émissions, vont être de plus en plus maîtrisées, de plus en plus gérées de manière responsable. Donc c'est un engagement très fort que nous donnons, parce que nous sommes quand même un territoire couvert à 88% de forêt, mais nous nous engageons, en termes de valeur absolue, à réduire nos émissions de 50% par rapport au niveau que nous avions en 2000.
Et est-ce que pour vous c'est un frein au développement ? Parce que c'est souvent un argument que l'on entend, notamment de la part des pays africains, en disant, ben voilà, ce sont les pays industrialisés qui ont pollué pendant des années, et maintenant on nous oblige à limiter nos propres émissions, donc c'est un frein au développement. Comment est-ce que vous percevez cette approche ?
Alors, nous, au Gabon, je parle, nous, en termes d'orientation politique, le climat n'a jamais été vu comme un frein, au contraire, c'est vraiment la possibilité pour nous de revisiter notre modèle de développement. Donc d'un modèle de développement basé uniquement sur les énergies non renouvelables, l'industrie extractive, nous passons désormais, dans le cadre du climat, sur un modèle de développement déjà beaucoup plus sobre en carbone et qui privilégie des solutions renouvelables à la place des solutions basées sur l'énergie fossile. Si on prend le cas par exemple des barrages hydroélectriques, pour lesquels nous avons décidé en 2025 d'obtenir 80% des mix énergétiques composés de barrages, contrairement au mix actuel qui était composé de centrales à fioul.
Mais en même temps, Ali Bongo a inauguré récemment une grande industrie de transformation du manganèse. On sait qu'il y a des perspectives importantes de développement aussi dans le pays sur l'aspect minier. On voit bien que dans ce que vous mettez dans votre contribution sur les forêts, vous parlez de réaffecter l'exploitation de certaines concessions forestières autrement, alors qu'aujourd'hui, la plupart des concessions forestières du Gabon exploitables, c'est-à-dire pas trop loin des lieux de chemin de fer, etc., ont été exploitées. Donc, est-ce que ces contributions, ce ne sont pas quand même un peu de la science-fiction ? Est-ce que c'est pas déconnecté de la réalité quand on demande à un pays comme le Gabon, mais pas uniquement, hein, à tous les pays en développement, de se projeter comme ça à l'horizon de 20-30 ans ?
Alors, c'est très simple. Sur les deux exemples que vous venez de prendre, ils sont très intéressants et ça me ravit. Sur le cas de l'énergie du manganèse, les émissions issues du manganèse sont principalement celles liées à la consommation électrique. Donc, en proposant une énergie propre, donc pour les industries de manganèse, vous trouvez la solution très facile à la réduction des émissions liées à ce secteur-là. Sur la forêt, par exemple, toutes les forêts ne sont pas exploitées, nous avons 23,7 millions d'hectares. Aujourd'hui, nous avons à peu près 14 millions d'hectares sous exploitation forestière. Et le choix du Gabon est donc de promouvoir une gestion forestière de plus en plus durable. Donc il s'agit principalement d'une manière de gérer responsable. Il ne s'agit non pas de nous priver, il s'agit d'augmenter les rendements de la filière bois grâce à son industrialisation, grâce à une meilleure gestion des essences forestières, grâce à un meilleur aménagement des permis forestiers. Comme vous le savez, la dégradation est la principale cause d'émissions de gaz à effet de serre du Gabon. Donc ce n'est pas de la science-fiction, au contraire, c'est un engagement politique et c'est une trajectoire politique que nous avons décidé de prendre, c'est celle de la responsabilité.
Merci Tanguy Gaouma.
Merci à vous, Madame Ruff.
Nicolas Drunet, vous confirmez, ce n'est donc pas de la science-fiction ?
Je pense que c'est une occasion pour un pays justement de regarder un peu sa trajectoire de développement. Le Gabon a le plan Gabon émergent et je pense que ça a été l'occasion en fait de regarder un peu ce que le plan Gabon émergent avait fait et ce qu'on pourrait peut-être, ce que le Gabon pourrait faire en mieux, j'allais dire, pour justement arriver à un plan Gabon émergent qui réponde à ses objectifs de développement, mais qui soit finalement le moins polluant possible.
Alors nous sommes en ligne avec Marilyn Diarra. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de l'environnement du Sénégal. Vous avez coordonné la contribution de votre pays qui a été remise aux Nations Unies il y a une semaine, samedi dernier. Alors pour vous, c'est un document de base essentiel pour la stratégie, là aussi, de développement du Sénégal. Expliquez-nous pourquoi.
C'est un document de base qui est chiffré et qui est essentiel vraiment pour pouvoir nous aider à nous diriger vers le développement que l'on souhaite en fait. Hein, et qui fait suite au plan Sénégal émergent, qui est donc le plan de stratégie de développement du Sénégal. Ça nous permet bien sûr d'évaluer toutes les tentatives qui ont été faites, les différents programmes, mais c'est aussi une opportunité pour souligner les besoins qui sont là et qui vont nous permettre en même temps de contribuer à l'effort collectif de réduction des gaz à effet de serre.
Alors quand vous parlez des besoins, vous parlez des besoins financiers, bien entendu, c'est-à-dire qu'on voit bien dans votre contribution qu'il y a une part de l'effort que vous pouvez faire avec des ressources locales et puis une part beaucoup plus importante si vous avez des financements que vous avez chiffrés d'ailleurs pour vous aider à vous développer de façon sobre en carbone.
Tout à fait. Il y a l'effort national qui peut être fait, mais bien entendu, l'effort sera beaucoup plus probant. Hein, on peut passer presque du simple au double, au triple même parfois, avec un financement extérieur.
L'énergie est évidemment un secteur essentiel. Hein. Or, pour assurer les besoins en énergie des 14 millions de Sénégalais aujourd'hui qui sont quand même très mal desservis à des tarifs parmi les plus élevés d'Afrique de l'Ouest, le président Macky Sall mise sur le charbon et comme l'écrivait récemment la journaliste Laurence Caramel dans le journal Le Monde, hein, si tous ces projets de charbon voient le jour, les capacités de production du Sénégal seront multipliées par deux, ce qui est formidable. Mais face à ces grands chantiers, les renouvelables occupent aujourd'hui un peu un siège de strapontin.
Alors, je ne dirais pas tout à fait ça. C'est vrai qu'on a opté pour le mix énergétique. Donc, des centrales à charbon sont dans le programme, bien entendu. À l'heure actuelle, des centrales à charbon, il y a deux projets qui sont en cours. Maintenant, on a aussi beaucoup de projets sur le solaire, sur l'énergie éolienne.
Oui, mais on part de projets, quand même, aujourd'hui, c'est plus massivement le charbon que le renouvelable.
Ça va de pair, ça se fait en parallèle. Il y a de plus en plus d'énergies solaires qui sont en train de se mettre en place. Donc, Et tout à l'heure, vous disiez que j'étais directrice de l'environnement, mais je suis aussi directrice des établissements classés. Et donc, toutes ces sociétés passent par la direction de l'environnement et des établissements classés. On est donc très au courant de tout ce qui se fait par rapport à ces projets. Et je peux vous assurer qu'il y a de nombreux projets dans le solaire qui sont en train de se développer.
Mais là, on revient peut-être justement à l'aspect financier, c'est-à-dire que plus vous aurez d'aide financière et technologique, bien entendu, plus peut-être le mix énergétique pourra aller vers le renouvelable. Est-ce que c'est quelque chose qui peut peser vraiment de façon importante dans la stratégie du pays ?
Tout à fait. Là, on a comme objectif, à travers la CPDN, d'atteindre en 2017 un taux d'environ 20% d'énergie renouvelable. Pour y arriver, il faut bien entendu des financements extérieurs. Et on compte beaucoup, bien entendu, sur le Fonds vert climat. Nous, on s'inscrit au niveau du Sénégal, comme les pays d'Afrique en général, on s'inscrit dans les réductions de gaz à effet de serre, mais aussi dans l'atténuation. Tout ça, ça va demander beaucoup de financement, ça va demander des transferts de technologie, ça va demander un renforcement de capacité. Et donc, tout ça, bien sûr, ne pourra se faire qu'avec des financements conséquents.
Merci beaucoup Marilyn Diarra, donc vous étiez en direct du Sénégal. Nicolas Drunet, pour que ces contributions se transforment en actes concrets, on l'a entendu, hein, c'est quand même bien parti à travers l'exemple du Gabon et du Sénégal. Vous allez mettre à la disposition des pays un guide pour les accompagner.
Effectivement, dans l'assistance technique qu'on a voulu apporter au pays, l'idée était de les accompagner jusqu'à la préparation d'un draft de leur contribution, puisque la contribution est validée par les pays eux-mêmes. Effectivement, on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'avoir un petit guide de mise en œuvre qui puisse les accompagner sur l'après, parce que je pense que le défi aujourd'hui c'est l'après et qu'est-ce qu'on fait de ces contributions. Je pense que Madame Diarra le disait bien, c'est quel accès au fonds vert, par exemple, qui va être un des leviers un petit peu pour la mise en œuvre de ces contributions. Et j'en profite aussi pour dire effectivement que je pense que ces contributions aujourd'hui, elles sont là. Maintenant, il y a un gros chantier de mise en œuvre et comment tous les acteurs qui travaillent justement à un développement qui soit résilient et durable et décarboné vont pouvoir être associés à la mise en œuvre. Je pense en particulier aux collectivités locales qui, à mon avis, vont avoir un rôle très très important. Et je pose la question, comment par exemple les collectivités locales auront potentiellement un accès par exemple au fonds vert? Ça, je pense que c'est des questions qui sont encore en cours, parce que je pense que c'est bien par un travail collectif à travers tous les acteurs, que ce soit l'État, la société civile ou les collectivités locales, qu'on arrivera justement à vraiment mettre en œuvre ces contributions qui je pense que sont quand même assez ambitieuses dans un certain nombre de pays.
Merci beaucoup Nicolas Drunet, et on mettra évidemment les coordonnées d'Expertise France pour que les auditeurs qui veulent en savoir plus puissent se renseigner sur la page internet de l'émission www.rfi.fr. L'Union européenne, qui a toujours fait preuve de beaucoup d'ambition en matière de lutte contre les changements climatiques, semble récemment s'essouffler un peu. Alors, est-ce que c'est seulement une impression? Décryptage avec Pierre Radan.
La chronique climat de Pierre Radan vous est proposée par la CNR, la Compagnie nationale du Rhône.
La trace que nous allons laisser tous ensemble, c'est un accord historique sur le climat.
Ce qu'il faut, ce sont de gros moyens. Ça, nous les avons.
You can make history or you will be vilified by it.
Bonjour Pierre Radan.
Bonjour Anne-Cécile.
L'Union européenne a depuis longtemps une position de leader dans les négociations internationales sur le climat. Alors, quelle est sa position actuelle?
Effectivement, l'Europe est l'ensemble le plus actif, bien avec les Pays-Bas, par exemple, qui sont très vulnérables au changement climatique. Mais sa raison profonde, c'est qu'elle n'a plus de combustible fossile sur son sol, ou presque. Charbon, pétrole, gaz. Et donc, elle est obligée de progresser dans le sens des économies d'énergie, de la valorisation des énergies renouvelables. C'est les dernières énergies qui lui restent sur son sol. Et elle a donc, de ce point de vue-là, une avance, mais elle a de plus en plus de mal à avoir une position commune, et la preuve, le peu de contenu dans sa contribution qu'elle a rendue aux Nations Unies.
Alors, cette contribution, elle a donc été faite par les 28 pays de l'Union européenne qui, là, ont parlé d'une seule voix. Que contient-elle exactement?
Bien, d'abord, elle rappelle son engagement de réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. Et c'est de loin l'engagement le plus élevé de tous les pays industrialisés. Mais elle n'a pas mentionné la répartition entre ses États membres. Il n'y a aucune modalité de mise en œuvre. Alors, c'est embêtant parce qu'on attendait justement de l'Europe très avancée qu'elle exprime des orientations en matière de technologie, de filière, qu'elle trace quelque part le chemin et qu'elle crée une dynamique. Alors, au sein de l'Union européenne, des pays comme l'Allemagne, les pays scandinaves sont parmi les pays les plus avancés dans le sens de ces politiques, à la fois, encore une fois, d'efficacité énergétique, de recyclage, d'amélioration de comportement, mais ces pays se trouvent quelque part entravés par d'autres pays, comme la Pologne, qui veut avant tout exploiter son charbon, l'Italie, les pays de l'Est ou l'Espagne, qui sont beaucoup plus réticents.
Et dans le domaine des financements, est-ce que l'Union européenne est exemplaire?
Alors, les pays de l'Union européenne sont parmi les principaux contributeurs au plan international, au niveau de l'aide au développement. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, la Suède, auquel il faut ajouter la Norvège, avec des capacités significatives en aide publique au développement, notamment vers l'Afrique. Et on est là dans des engagements qui sont extrêmement forts. L'Europe aussi a une difficulté aujourd'hui, c'est qu'elle avait mis en place des obligations sur ses industries, hein, avec un système de quotas, et que...
C'est-à-dire que les industries ne pouvaient pas émettre d'émissions de gaz à effet de serre.
Exactement. Et ces industries pouvaient investir dans les pays en développement et, à ce moment-là, exprimer vis-à-vis de l'Union européenne qu'elles avaient, d'une façon globale, diminué leurs émissions.
Un système de compensation.
Voilà. Le problème, c'est que ce système, aujourd'hui, est en train de s'effondrer par baisse des obligations prononcées par l'Union européenne vis-à-vis des industries et que la valeur du carbone sur le marché international s'est effondrée. Et là, ça prive les pays en développement d'une partie de leurs recettes. Alors, il faut espérer qu'à Paris, l'Union européenne retrouve toute sa capacité d'entraînement maintenant.
Merci Pierre.
Merci Anne-Cécile.
La chronique climat de Pierre Radan vous a été proposée par la CNR, la Compagnie Nationale du Rhône, premier producteur français d'énergie 100% renouvelable.
Restez avec nous sur RFI, de toute façon vous ne serez pas mieux ailleurs. On se retrouve dans quelques minutes, juste après le flash d'info. Nous irons en Bolivie voir l'état du lac Titicaca, un lac en danger, mais les autorités et la société civile se mobilisent. À tout de suite.